Le Canada, le français au Canada est-il sur le respirateur artificiel? Premier chapitre d'un vaste projet documentaire qui sonde l'état du français sur le territoire canadien. Au Canada, plonge au cœur de l'explosive question linguistique à travers une enquête dans les provinces maritimes et l'Ontario, en passant par la nation québécoise, où, là où loge la majorité francophone. Donc, au Canada, chapitre 1, l'Est du pays, c'est une pièce de théâtre documentaire présentée au théâtre Denise Pelletier à compter de ce soir et jusqu'au 1er mars. Et pour en parler, on reçoit Danielle Lessault-Farmer, comédienne, metteur en scène et autrice de la pièce au Canada. On vous rejoint au téléphone. Bonjour, Danielle.
Bonjour.
Oui, on a décidé de faire ça au téléphone parce que se déplacer à Montréal, c'est vraiment pas facile aujourd'hui.
Ah oui, hein, c'est un bon petit chaos là avec la neige.
Ah ben écoute, je pense que je fais le cardio que je devais faire au gym, l'ai fait à me promener à Montréal. Moi, j'avoue que je vais voir la pièce vendredi. Parce que dès que j'ai vu ça, moi, ça m'a interpellé. Je le dis souvent, j'ai vécu à cause de Radio-Canada. Je me suis promené d'un bout à l'autre du pays et j'ai été quand même 7 ans en Atlantique et beaucoup en Ontario et dans l'Ouest. Alors, quand on me parle de la situation du français au Canada, ça m'interpelle.
Je comprends.
Alors, justement, parlons de cette thématique que vous abordez. Pourquoi vous abordez cette thématique? Qu'est-ce qui vous a interpellé, vous, personnellement?
Personnellement, dans mon parcours, moi, je suis une franco-canadienne. Je suis née à Winnipeg. J'ai été élevée à Ottawa. Fait que la francophonie en situation minoritaire de par ma famille et mon vécu, je connais très bien ça. Mais j'ai aussi passé une partie de ma vie adulte d'artiste au Québec, à Québec. Mm-hmm. Alors, la coexistence dans la francophonie et surtout dans le portrait fédéral-provincial, ça m'a toujours intéressée. Il y a beaucoup de tensions. Et pour moi, comme je suis une artiste de théâtre, ben là où il y a de l'attention, il y a du théâtre.
Hein?
Il y a beaucoup d'émotions. C'est difficile de parler de langue de façon froide et clinique parce que ça vient chercher les gens dans leur identité au final. Et quand on a démarré la recherche, c'était à la lumière du 40e de la loi 101 au Québec, qui est un outil hyper important de préservation de la langue, mais qui n'est pas censé... C'est problématique par rapport à certains groupes au Québec. Et aussi, on soulignait le 50 ans de la loi sur les langues officielles, qui est une loi fédérale qui s'applique aux instances fédérales. Fait que moi, avec un bagage juridique, j'ai un bac en droit, j'ai voulu, avec mon collègue Nicolas Gendron, creuser la question du vécu et du ressenti des citoyens vis-à-vis l'avis des experts sur cette question-là, est-ce que le français est en déclin et à quel point il faut être alarmé? C'était ça la base.
Bon, avant d'aller plus loin, est-ce que le français est en déclin? D'après ce que vous avez vu. Je suis en train de divulgacher votre pièce, c'est ça?
Non, pas du tout. En fait, c'est qu'on manque de nuances parce qu'on n'a souvent pas beaucoup de temps pour donner une réponse là, nuancée. Le déclin s'avère dans les chiffres, mais très, très, très légèrement. Et surtout au Québec, c'est pas un déclin qui est vérifié dans les chiffres. Il y a des mouvements par rapport au bilinguisme, la montée du bilinguisme français-anglais, par exemple, à Montréal et aussi à l'extérieur de Montréal, au Québec. Mais c'est sûr que c'est incomparable avec le vrai déclin démographique et l'exode dans les provinces, comme on dit, hors Québec, là, dans les communautés francophones. Mais moi, ça, c'est peut-être plus personnel. Il y a d'autres gens dans le spectacle que c'est pas nécessairement leur avis. Mais moi, la réponse courte, c'est que non, le français n'est pas dans un déclin d'urgence ou d'alarme. Mais c'est sûr qu'il faut agir sur certains plans, comme la francisation, les enjeux d'immigration, c'est énorme. Fait que c'est très complexe comme question, honnêtement. Mais ça nous travaille dans l'équipe de création à quel point on peut instrumentaliser cet alarmisme autour du déclin de la langue pour au final parler de d'autres choses.
Tout à fait. Et c'est intéressant parce que je pense que le théâtre permet parfois de prendre ce recul quand on fait du théâtre documentaire puis d'enlever le politique de tout ça puis d'essayer de comprendre ce qui se passe. Cela dit, au Québec, puis moi, c'est quelque chose que j'ai entendu, que j'ai vécu quand je travaillais à l'extérieur du Québec. Ben, on semble oublier que le français, c'est une langue qui est utilisée. J'ai vécu à Edmonton, puis je peux vous dire, là, je passais probablement la moitié de ma vie à parler français, d'abord à Radio-Canada, mais il y a beaucoup de francophones là aussi. Et vous traitez de la réalité française dans le reste du Canada. Alors, justement, parlez-nous un peu de ces communautés que vous avez découvertes là, dans votre travail. Ou peut-être pas découvertes dans votre cas, parce que vous venez de vous avez quand même vécu à l'extérieur du Canada, du Québec.
Mais on a parlé à plusieurs, des centaines de citoyens en Acadie. On a fait une résidence assez particulière à Terre-Neuve avec la communauté francophone à Terre-Neuve, en Ontario aussi. Alors, ce qu'on constate, c'est que plus les provinces ou les communautés francophones hors Québec sont rapprochées du Québec, plus il y a une espèce d'étalon de mesure par rapport au Québec. Dans la mesure où on se compare, on a envie des fois comme artiste d'être reconnu par la culture québécoise, on a envie de se sentir légitime comme francophone vis-à-vis le Québec. Mais ce qu'on constate, c'est quand même plus on s'éloigne de ces provinces limitrophes, par exemple dans le nord de l'Ontario, par exemple en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, ben moins ces communautés-là francophones se comparent au Québec et existent de façon propre et autonome et se définissent en tant que telles. L'Ouest, comme vous le mentionnez, Edmonton et tout ça, c'est toute une autre histoire. Le Québec figure beaucoup moins dans leur imaginaire collectif. Alors qu'à Ottawa, par exemple, ou dans l'Est ontarien ou au Nouveau-Brunswick, on est collé au Québec. Fait qu'on est toujours, les citoyens sont toujours en train de se mesurer, d'essayer de se retrouver dans leur existence et de se légitimer par rapport au Québec. Il y a tout un passage dans le spectacle où on parle de Radio-Canada et de la représentativité régionale ou de ces communautés francophones hors Québec sur les heures de grande écoute, par exemple. Puis cette invisibilisation-là, elle est assez douloureuse parce que réelle. Mmh. On se sent comme francophone hors Québec. Et d'ailleurs, c'est une expression que je déteste, mais je m'en sers parce que c'est clair, là.
Ouais.
Mais on se sent invisible. Puis ça pèse sur une identité de toujours avoir à revendiquer sa simple existence. C'est de dire, non, j'ai pas appris français il y a 3 ans venant de Winnipeg. Je suis bilingue et francophone depuis la naissance. Puis oui, il y a des francophones là depuis des générations, là.
Tout à fait. Vous avez coécrit cette pièce avec Noémie Savoie, qui joue également sur scène. C'est quoi les circonstances qui vous ont amené à cette co-création?
Bien, c'est qu'on a une belle dualité, Noémie et moi. On était en duo avec Nicolas Gendron, moi et Nicolas. Puis ensuite, Noémie s'est rajoutée au moment où on faisait une résidence au théâtre d'aujourd'hui, au printemps 2022. D'ailleurs, politiquement, c'est un moment assez chaud pour la langue parce que c'était toutes les manifestations pour ou contre le projet de loi 96, donc la réforme de la loi 101. Fait que c'est assez chaud dans l'actualité. Et Noémie est une Québécoise, à l'origine de Drummondville, mais qui est à Québec maintenant. Et Québec, là. Tu sais, le Québec tatoué sur le cœur, l'inquiétude pour la langue et tout ça. Donc, il y avait une belle dualité dans la coécriture pour pas que ça soit uniquement le point de vue d'une francophone, d'une franco-ontarienne. Fait qu'on trouvait ça important dans la direction artistique du projet et de ce spectacle d'avoir ces deux voix-là au chapitre. En plus d'avoir la collaboration à l'écriture des autres membres de la distribution, donc Yad Ek, Carlo Eka et Moriana Kaczmarski.
Et Nicolas Gendron, qui a travaillé avec vous là-dessus aussi.
Oui.
D'accord. Nicolas, il est comédien, je le connais pas. Excuse-moi, là. Oui.
Il est comédien, auteur, metteur en scène, il fait toutes sortes de choses. Il est aussi adjoint à la direction artistique au Théâtre Denis Pelletier, fait qu'il travaille avec Claude Poisson. Et c'est avec lui que j'ai mené vraiment les 4 ans de recherche des résidences en Acadie. Tout ça, Nicolas était là aux premières loges. Mais pour cette mouture-ci en particulier, avec d'autres projets qu'il menait de front, il s'est pas retiré, mais il figure pas dans le chapitre 1.
D'accord.
Mais il revient dans le giron pour le chapitre 2, c'est sûr.
D'accord. On parle de langue, on parle d'identité, de spécificités culturelles et émotives en fonction de la région ou le territoire où on habite. Hein. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la langue française soit assimilée à la langue anglaise?
Non.
Non? Parce que ça, c'est vraiment l'assimilation. Si au Québec, on craint pour l'avenir du français, moi, je peux dire que à l'extérieur du Québec, c'est beaucoup l'assimilation qui est la crainte des communautés francophones.
Oui, puis c'est une crainte légitime, là. C'est pas, je ne divulgage rien, mais je vais le dire parce que je le mentionne dans le spectacle. Le taux global d'assimilation des francophones à l'extérieur du Québec, au Canada, est de 42 %
Quand même.
C'est énorme.
Ouais.
Puis dans mon expérience personnelle de vie familiale, ma mère a 4 sœurs Et en gros, là, c'est juste moi et mes deux sœurs qui vivons encore en français. Mes cousines, du côté maternel, mènent leur vie professionnelle, familiale, intime maintenant en anglais. Alors, cette pyramide inversée, je la constate dans ma famille. Je vis l'assimilation. Et on compte sur l'immigration francophone dans les provinces hors Québec. Le risque d'assimilation au Québec, il est vraiment, je ne veux pas dire exagéré, mais c'est incompris le phénomène de l'assimilation. Honnêtement, il faut d'abord, pour être complètement assimilé, c'est que sa langue maternelle doit être minoritaire. Mais il faut se rappeler que sur le territoire québécois, même à Montréal, la langue est majoritaire. Elle est protégée par l'État. C'est la langue officielle du Québec, même si le Québec est une province. Et jamais le fédéral, avec ses compétences, pourrait venir asseoir l'espèce de dominance de l'anglais. Par contre, on a peur parce que les jeunes vont avoir une plus grande acquisition de l'anglais aujourd'hui avec la mondialisation, la consommation de la culture américaine. Il y a toutes sortes de facteurs. Mais le risque vraiment d'assimilation au Québec, on peut pas parler de réel risque en ce moment. Si j'étais encore en vie dans 100 ans, peut-être qu'on aurait une autre conversation. Mais là, c'est une question de relativiser et d'utiliser les bons mots. Mm-hmm. Et aussi de pas juste parler de langue, mais de parler de culture, de consommer de la culture francophone, de soutenir la culture, continuer à encourager par l'éducation le choix de parler français et de vivre sa vie en français. Bref, bon, c'est multifactoriel, là, je ne veux pas partir sur ma thèse, mais je suis bien sensible au mot assimilation parce que au Québec, c'est brandi comme un épouvantail, mais ça, c'est pas quelque chose qui est vérifié dans les chiffres. Absolument pas.
Alors, cette pièce, on va voir quoi là sur scène? Encore une fois, sans trop divulgâcher, comment ça va se traduire, oui?
Bien, on s'est donné un cadre de fiction. Alors, on n'est pas nous-mêmes en tant que tel, Daniel Le Saufarmer, artiste de théâtre et tout ça. Je me présente pas comme ça dans une forme traditionnelle de théâtre documentaire. On a formé, donc on est des agents parents gouvernementaux et on a formé le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental et intercitoyen sur l'évolution du climat linguistique. C'est un jeu sur le GIEC. Alors, on tente avec ces agents-là, qui sont des personnages et qui sont des archétypes, de présenter les faits de façon objective et statistique au public. Mais cette conférence qui prend la forme au début d'un TED Talk, ça dégénère. Les émotions prennent le dessus. Il y a beaucoup d'humour. Il y a un gros concours de victimisation, c'est-à-dire c'est qui la pire victime entre les provinces et entre les communautés. Tout ça est fait avec beaucoup d'ironie, on s'entend. Mais des fois, ça nous intéressait beaucoup parce que le jeu de la victimisation, on le joue beaucoup en francophone. Qui a la pire situation? Qui est le plus en danger? Qui est le plus à plaindre? Et ça nous amène, même si on tente de résister à ça, les agents du GIEC sont ramenés à une posture d'antagonisme qui est reflétée dans notre structure fédérale, dans ce que moi j'appelle la fiction fédérale. Le Canada est un mariage forcé. Puis justement, ce qui est drôle, c'est que là, c'est un excellent moment pour parler de solidarité parce que ça nous prenait la menace d'une guerre de tarifs épouvantable pour soulever la fibre canadienne d'est en ouest, à part l'Alberta, on s'entend?
Ouais,
mais le Québec, tout d'un coup, est fier d'un Canadien, d'acheter Canadien, de lutter contre les Américains. Mais c'est capoté à quel point ça prenait un événement comme ça, terrible, pour se sentir unifié. Il y a ça et les Jeux olympiques.
Ouais,
c'est les deux instances que je peux imaginer qu'au Québec, il y a une forme de fierté canadienne. Là, je généralise quand même, là, mais...
Ben, voilà. Certains vont dire une fierté québécoise, mais bon, moi, je n'embarque pas dans ce débat-là. Mais cela
non,
dit...
Non, mais t'as raison. Il y a les deux. Il y a les deux.
Mais ça, on pourra peut-être dire que Donald Trump a eu cet effet positif-là de rallier les gens progressistes contre lui partout sur la planète, et peut-être que ça va changer des choses. Sait-on jamais.
Sait-on jamais.
Dans cette pièce a été présentée à Ottawa et Rimouski. Qu'est-ce que ça a été la réception jusqu'à maintenant?
Ben, c'est une excellente question parce qu'à Ottawa, ben, on s'adressait à un public essentiellement franco-ontarien, mais aussi de l'Ouest québécois, donc de Gatineau. La région d'Ottawa-Gatineau est très particulière, vous le savez, là, le haut lieu de la fonction publique fédérale.
Ouais.
Et souvent, les Gatinois, c'est pas qu'ils se sentent exclus du Québec, mais c'est toujours une, toujours particulier, hein, Gatineau, vis-à-vis le reste du Québec, le système de santé dans cette ville-là, ça va super mal. Fait on parlait à des gens qui connaissent bien la réalité des francophones en situation minoritaire, puis qui ont été très interpellés par ce sentiment d'être un peu rejeté par soit la métropole, donc montréalaise, ou le projet québécois. Là, évidemment, généralise. Mais il y avait une réception très forte par rapport à toutes les références franco-ontariennes. À un moment donné, vous allez voir, mais on joue le l'hymne franco-ontarien qui est assez particulier. Puis là, la foule était en liesse, tout le monde chantait. Alors, Karine Mouski, là, on s'est dit, ah, OK, on a atterri à la bonne place parce que jouer ce show-là devant un public québécois, c'est la réponse peut-être qu'on cherchait parce que ça les confronte, mais ça les a galvanisés aussi, qu'on parle de langue. Et peut-être aussi, c'est ce que j'ai reçu dans les échos après le spectacle, ça sensibilise, en tout cas, ça ouvre les œillères. Mais je pense que globalement, c'est un spectacle qui n'est pas aride, c'est très divertissant et il y a beaucoup, beaucoup d'humour et d'autodérision. Fait que je pense que ça contribue au fait qu'on peut parler de ce sujet-là sans en arriver aux larmes, sans être dans l'alarmisme, mais on peut en rire aussi. C'est ça que ça permet de rendre les choses objectives, des fois, de se donner une distance statistique. Ça permet de relativiser et même de faire des blagues. Ouais. Après ça, je peux pas dire que personne dans le public était heurté. Là. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être heurtés par certains propos. Mais on a tenté de présenter une très large gamme d'opinions. Ouais. Et d'avis d'experts sur le sujet.
Et de toute façon, quand on va voir un spectacle, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on va nous dire, ce qu'on veut entendre. Il faut parfois être mis au défi. Comme on dit en franglais, ou comme diraient les Chinois, d'être challengé. Hein?
Exact. D'être challengé, c'est ça notre objectif. Tout à fait.
Donc, on a un chapitre 1. Est-ce qu'il y aura un chapitre 2? Et si oui, de quoi allez-vous parler dans ce chapitre 2, ou si vous le savez déjà? Là?
Bien, dans le spectacle, on ne sait pas encore parce que c'est l'étape de la recherche documentaire, mais on s'intéresse à l'Ouest et au Nord. Donc, au Yukon, au territoire du Nord-Ouest, où il y a des communautés francophones, c'est peu connu, mais par exemple, le Yukon, c'est la province où le nombre de francophones et la proportion est en hausse à cause de l'immigration. Ça, c'est assez fascinant. Et l'Ouest a d'autres enjeux. Vous l'avez mentionné encore là, par rapport à Edmonton, Vancouver, la Saskatchewan. Moi-même, j'ai de la famille du côté maternel, des cousins là, qui habitent à Prince-Albert, en Saskatchewan, en Alberta, pardon. C'est des communautés francophones petites, mais très vibrantes. Là. Oui. Il y a de la culture. Et donc, ce qui nous intéresse là-bas, c'est les moyens de vivre et survivre. Et qu'est-ce qui contamine la culture francophone là-bas parce que ce n'est pas le Québec? C'est tellement éloigné. Donc, sans l'espèce d'hégémonie culturelle québécoise, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est ça qui nous intéresse. Et la question de l'immigration francophone est d'autant plus importante parce que, oui, les francophones immigrent là. Et comment ils sont accueillis? Comment ils sont, entre guillemets, intégrés? Est-ce qu'ils peuvent vraiment vivre en français ou ça finit par virer vers l'anglais? Toutes ces questions-là nous intéressent en ce moment.
Bon, ce soir, c'est votre première ici à Montréal. On est au lendemain du décès d'Antonine Maillet. Je vous pose la question. Allez-vous avoir une petite pensée pour cette grande, grande dame de la communauté acadienne?
Ah, non seulement une petite pensée, mais hier, on a pris un moment en équipe pour le souligner, avec d'ailleurs l'Acadien qui est avec nous, Carlo Eka, puis on le souligne dans le spectacle, là, parce que c'est ces monuments-là. Encore une fois, je reviens à ça, mais c'est la culture, hein, qui fait vivre une langue.
Oui.
C'est très important. L'éducation, d'abord, ça cristallise chez le francophone la langue, mais c'est la culture. Donc, et c'est comment on se raconte comme peuple, comme communauté. Fait qu'Antonine Maillet a été une force fondatrice dans le fait de nommer, circonscrire, nommer avec couleur, avec cœur. C'est quoi la culture acadienne? C'est quoi l'identité acadienne? C'est une grande perte, comme tout décès, mais c'est vraiment un monument, Antonine Maillet. On fait beaucoup référence dans le spectacle avec beaucoup d'humour à la Sagouine, parce que c'est un peu ça, la folklorisation de la culture acadienne. C'est des fois qui va éclipser ce qui se passe d'un point de vue plus actuel et contemporain. Mais sans ces monuments-là qui ont assis et fondé la culture, l'identité, ça se serait effrité bien avant. Fait que ouais, c'est un grand moment. C'est la synchronicité des choses, des fois, hein, ça fait en sorte que c'est ça. L'univers travaille avec nous là pour que les choses se parlent.
Ben, Danielle Le Saufermer, merci beaucoup. Danielle Le Saufermer, qui est comédienne, metteur en scène et autrice de la pièce Au Canada, qui est présentée à compter de ce soir, 18 février jusqu'au 1er mars, à la salle Fred Barry du théâtre Denise Pelletier. Que je rappelle aussi, je pense que cette salle est accessible, hein, parce que nous, on a beaucoup de personnes en situation de handicap qui nous écoutent. Alors, c'est accessible aussi pour...
Très accessible, oui. Puis je pense qu'ils travaillent fort pour le déneigement en ce moment pour s'assurer que ça puisse... ce pouvoir, parce qu'on s'entend que dans ces situations-là de neige, là, l'accessibilité, c'est terrible.
Parce
pour
que
les gens qui sont à mobilité réduite.
Je vais vous voir vendredi. Si jamais vous sortez après, je vous dirai un petit bonjour, puis on
Bien
en discutera.
Sûr, ça me ferait plaisir.
Merci beaucoup encore.
Merci infiniment. Bonne journée.
Bonne journée.